France Musique.
Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Jean-Guyenne Queyras, je suis né le 11 mars 1967 à Montréal. Je suis violoncelliste.
Quand on enseigne, comme vous, depuis plus de 10 ans, à des élèves, vous le disiez, qui sont des élèves déjà confirmés, des grands élèves, est-ce qu'on est plus proche de la remise en question permanente ou justement d'avoir des véritables certitudes ?
Non, alors les certitudes, j'ai la certitude de ne pas avoir de certitudes. Ça, je pense vraiment que c'est... Puis c'est pas quelque chose que je cherche. Donc j'ai des expériences, j'ai un vécu que je peux partager avec mes élèves. Mais je sais aussi que leur vécu ne sera pas le mien. Et puis, tout simplement, le tissu social dans lequel eux, en tant que jeunes musiciens, vont être amenés à entrer dans la vie professionnelle, ça n'a déjà plus rien à voir avec celui dans lequel moi je suis rentré. De toute façon, il y a toujours une remise en question de ce côté-là. Le fait d'enseigner, déjà d'un point de vue égoïste, j'ai envie de dire, d'un point de vue très, égocentrique, c'est que ça oblige à formuler, à une vraie réflexion en fait sur le pourquoi de certains choix d'interprétation. Donc il peut y avoir des choses effectivement dans notre vie d'interprète ou des pièces quand on les joue souvent. A priori c'est quelque chose que j'essaie d'éviter, mais il peut arriver qu'on s'installe dans des habitudes. Mais même, n'ayons pas peur des mots, ça arrive. Je le sais aussi parce que, avant même de parler de l'enseignement, Dieu merci, je joue avec des collègues et avec qui on a le désir de se dire les choses. Et je sais, par exemple, quand j'ai commencé à jouer avec Alexander Melnikov, il y avait certains points sur lesquels il y a eu des points de friction qui ont été des points de friction positives, mais des points de friction où je me rendais compte, tout d'un coup, il mettait le doigt sur quelque chose où, je m'étais installé dans quelque chose qui me paraissait une évidence, alors que ce n'était pas une évidence. Et donc, il y a eu cette remise en cause. Ça a été très intéressant dans notre travail sur les sonates de Beethoven, notamment. Alors, pour revenir à l'enseignement, quand quelqu'un joue avec passion, avec toute son âme, on met dans notre musique une part profonde de nous-mêmes. Hein. C'est vraiment, on touche à quelque chose de fondamental. Donc, quand quelqu'un vient remettre ça en cause, que ce soit un collègue dans le cadre de la musique de chant, ou que ce soit un professeur qui vient vous dire, je peux vous dire que vous pouvez pas vous contenter en tant que prof de simplement dire, tu peux pas faire ça comme ça. Bon, c'est déjà première chose en tant que prof, comprendre pourquoi l'élève fait ce qu'il fait. Éventuellement d'ailleurs, en tirer un enseignement pour soi. Moi j'ai souvent appris dans mes discussions avec mes élèves, on peut aussi faire ça comme ça. Et puis sinon, ce qui peut arriver, c'est le cas le plus, un cas récurrent, c'est qu'un élève va exprimer quelque chose de très fort, de beau, etc. Mais qui n'est pas en phase avec ce que le compositeur exprime. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire, dans votre relation au compositeur, comment m'impliquer moi, mais respecter aussi ce que le compositeur apporte. Donc, on va essayer d'apprendre à l'étudiant, à lui dire, tu peux exprimer tout autant de passion, de quelque chose de très personnel, mais attention, au niveau du langage, au niveau de la langue, Là, la langue de Haydn, c'est pas de mettre un énorme vibrato super large sur chaque note. Enfin, je prends un exemple évidemment énorme, mais ça arrive. Bon, et j'ai des étudiants qui vont arriver, par exemple, je prends l'exemple de Haydn, avec effectivement ce gros vibrato ou un type de son qui a priori ne convient pas à Haydn, mais qu'ils font avec beaucoup de conviction. Mais je suis obligé de leur dire, écoute, quand même, là tu t'exprimes avec la langue de Shostakovich dans la musique de Haydn, et là il y a quelque chose qui colle pas. Je crois que ce qui est intéressant, c'est le rapport entre deux univers. L'univers du compositeur et celui de l'interprète. En tout cas, au moment de l'interprétation, il n'y a pas une hiérarchie finalement comme ça. De dire, il y a d'abord le compositeur et ensuite, nous, on est derrière. Je comprends pourquoi certains ont dit ça, pourquoi certains ont voulu dire, il ne faut pas que l'interprète se mette en avant et donc, il y a d'abord le compositeur. Il y a un point d'équilibre. Encore une fois, je reviens à la métaphore de la relation, toute bête, de la relation affective au sein d'un couple ou de la relation entre deux amis. Et une amitié, c'est quelque chose sur lequel vous êtes en balance, vous travaillez toujours sur ce rapport. Il faut que chacun trouve sa place dans cette zone qui est au milieu entre les deux personnes et qui est cette zone commune. Bon, et ben là, le moment du concert, c'est cette zone commune entre l'univers du compositeur et l'univers de l'interprète. Rechercher ce point d'équilibre, c'est effectivement quelque chose qui est pour la vie, et puis et le fait de travailler sur cette recherche avec les étudiants, ça aide beaucoup.
Thank you.
Il y a deux personnes que je ne voudrais pas manquer d'avoir évoquées. Et finalement, par le biais de la discussion, on n'a parlé finalement que comme ça en marge, alors qu'en fait, elles ont été centrales dans ma vie. Il y a Tabea Zimmermann, donc, qui effectivement fait partie des membres fondateurs du Quatuor Arcanto avec moi. Tabea, je l'avais rencontrée déjà quand j'étais allé faire mes études à Freiburg, donc quand j'avais 17 ans, donc beaucoup d'années avant. Et on n'avait pas encore beaucoup joué ensemble, mais on parlait tout à l'heure d'une certaine éthique de l'interprétation en parlant de Boulez. Et avec Tabea, d'une manière très différente, c'est une personnalité très différente de Boulez, mais il y a cette même profondeur, cette même recherche de quelque chose de profond, substantiel et honnête dans l'interprétation qui m'a énormément marqué chez Tabea Zimmermann. Et il y a aussi ce charisme. Pierre Boulez est évidemment la personnalité charismatique que l'on sait. Et Tabea Zimmermann a cette dimension-là aussi. Et dès qu'elle pose l'archet sur la corde, on accède à un monde qui a une profondeur, qui a une aura qui est due à la richesse intérieure de cette personne. Ça, je voulais absolument en parler. Et je voudrais évidemment parler de mon partenaire de duo, Alexandre Tarot, que j'ai rencontré. Bah, maintenant, ça va commencer à faire bien longtemps, je dirais une vingtaine d'années. Il est comme un frère pour moi, Alexandre. On a fait tellement de choses ensemble, de répertoires, de tournées. Et il est vraiment comme un frère, dans le sens où c'est vraiment quelqu'un avec qui, sur le plan personnel et dans le domaine musical, il y a une confiance absolue. On peut tous dire l'un l'autre. Et ça se sent dans notre rapport à la musique commun. C'est-à-dire, quand on commence à jouer ensemble, il y a une évidence à 99% des choses qui fait qu'il y a énormément de sujets dans l'interprétation dont on n'a pas besoin de parler. Ça se fait parce que c'est comme si on était génétiquement de la même branche. Et c'est drôle d'ailleurs, j'y pense là en vous en parlant comme ça, je pense tout haut simplement. Alexandre avait une très grande affection pour ma mère. Ils avaient eu tous les deux un échange très fort, ils s'écrivaient, ils se téléphonaient. C'était vraiment très touchant et très beau à voir. Donc voilà, j'y pense là maintenant en parlant de ce côté parenté entre nous que j'ai senti dès le début et qui a toujours été là et qui est vraiment quelque chose de merveilleux quand on se retrouve pour faire de la musique ensemble.
Si on parle du rapport au concert, du rapport à la scène, est-ce que vous êtes plutôt méthode Alexander ou plutôt assiette de riz? Quel est votre rapport à la scène?
Le rapport à la scène et à l'avant-scène, pour ainsi dire. Qu'est-ce que, juste avant d'entrer sur scène, comment on se prépare? Alors, moi, j'ai fait de la technique Alexander aussi, comme beaucoup de musiciens le font. Je crois que ce qu'il faut trouver, en fait, d'abord, d'un point de vue... après. Peu importe les recettes qu'on prend. Mais ce qu'on essaye de trouver au moment d'aller sur scène. Bon, quand on va sur scène, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on est face à, alors selon le contexte, de 2000 ou 1000 ou 200 personnes. Et disons que ce dont il faut se rappeler avant tout, c'est que ces personnes, ou en tout cas la plupart, sont venues par passion, pour vivre la musique, comme nous. Et que donc, ces personnes, ces vraies personnes passionnées, Elles viennent pas pour juger, et elles viennent pour vivre avec vous cette musique, et quelque part, avec ce que vous aussi, vous avez de personnel à dire avec cette musique. Et je dis ça parce que très souvent, ce qu'on appelle le track, hein, c'est quoi? C'est tout bête, c'est est-ce que je vais être à la hauteur des attentes? Donc soit vous vous êtes fait une grande réputation et vous vous dites, mon Dieu, mais est-ce qu'aujourd'hui je vais être à la hauteur de la réputation, de ce que les gens attendent? Ou alors vous n'avez pas encore de réputation, on vous connaît pas, et vous vous dites, ah mais comment est-ce que je peux leur montrer à quel point je j'aime cette musique, est-ce que je vais être capable de... Donc c'est toujours un petit peu ça, hein, et je me souviens d'un mot de Yo-Yo Ma à ce propos-là, parce que lui, on imagine, vous vous rendez compte, la pression. C'est une superstar internationale, c'est comme un musicien de rock. Donc il arrive sur scène et il y a cette attente. Donc, et il disait, systématiquement, tous les concerts, il trouve dans le public, lui carrément, il regarde dans le public, et il trouve une personne, il dit, ça peut être la dame dans sa chaise roulante, là, ici, ou une autre personne, où il sent que cette personne est là, voilà, pour... partir vers autre chose pour voilà, parce que les gens, ben, ils sont venus au concert, ils ont une journée de travail difficile derrière eux, on sait pas, ils ont tel souci dans la vie ou je ne sais pas, ou alors tout va bien, je ne sais pas, bon bref, mais toujours est-il que là ils veulent partir vers autre chose, et donc oui, partons pour ce voyage. Il sera imparfait, ce voyage, bien sûr qu'il sera imparfait puisqu'il sera humain, mais donc la première chose, c'est d'être capable d'accepter ses faiblesses et ses moments, ces erreurs. Je permets même pas seulement des erreurs techniques qui vont certainement arriver aussi, mais même au niveau de l'interprétation, je vais peut-être faire des choix qui seront pas les bons aujourd'hui, mais vivons sur le moment, c'est ça. Donc, quelque part, c'est aussi dans la préparation, quand on est dans les coulisses derrière, avant d'entrer dans l'arène, c'est retourner pour le coup, avant d'aller vers l'extérieur, avant d'aller vers cette salle qui nous attend, c'est d'aller vers notre fort intérieur. Et dire, voilà, moi, à l'intérieur, là, cette pièce, c'est quoi pour moi? Cette histoire, c'est quoi pour moi? Cette musique, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que je peux, moi, déjà vivre? Et vraiment se prendre en compte. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça aussi. C'est vraiment s'accepter comme on est, sur le moment. Et ça, c'est surtout ça, le travail. Donc moi, c'est presque un travail, je serais difficile à décrire, parce que c'est pas vraiment une des écoles Alexander, etc., même si je l'ai fait à une certaine époque. C'est plus me recentrer dans le sens... Moi, cette musique, voilà ce qu'on a à proposer. Et puis, ensuite, on laisse rentrer dans cette relation, ben, le public.
Dernière question, peut-être, Jean-Guillaume Carras, parce que notre entretien touche à sa fin. Qu'est-ce qu'il y a comme rêve?
Alors, mes rêves, finalement, c'est plus... C'est la prolongation du sujet dont on parlait à l'instant. C'est d'être plus en plus en accord avec moi-même. Parce qu'en tant qu'interprète, quand on est vraiment en accord avec soi-même, donc du coup, on est capable de s'ouvrir aux autres. C'est comme toujours, c'est comme dans la société, hein, c'est pas le moment de faire ce genre de digression, mais je la fais quand même. C'est le contraire de ce qui se passe en ce moment sur le plan politique, où tout le monde a peur, tout le monde se referme sur soi, et on se ferme aux autres. Donc, c'est au niveau des différentes sociétés, au niveau des différentes religions, au niveau, etc. Donc, sur le plan personnel, je crois, moi, mon rêve, c'est d'être de plus en plus en accord, en paix avec moi-même, de manière à pouvoir m'ouvrir le plus possible aux autres et peut-être à travers la musique, parce que on a des personnes extraordinaires, des personnes, et je veux insister sur ce mot-là, qui s'appelait Schumann, qui s'appelait Johannes Brahms, qui s'appelait Johann Sebastian Bach, etc., etc., et les compositeurs d'aujourd'hui aussi, qui font la démarche de composer une musique parce que c'est une urgence, parce qu'ils en ont un besoin urgent. Et je pense à un Beethoven qui a tellement souffert et on doit tellement à sa souffrance. De nouveau, on est là sur cette idée de la crise et de la crise qui est une opportunité. C'est, si Beethoven n'avait pas souffert comme il l'avait fait, il n'aurait pas pu composer des œuvres aussi existentielles que ce qu'il a composé. Donc je reviens à mon propos, ceci pour dire que grâce à ce qu'il nous offre, si moi je peux le plus possible être en confiance et donc refaire vivre cette musique, peut-être que grâce à eux, grâce à ces compositeurs, grâce à la musique, je serai moi-même capable de donner, je l'espère, le plus possible de confiance et d'envie de s'ouvrir et de créer aussi aux auditeurs, à ceux qui écoutent et ceux avec qui finalement je suis dans l'échange quand je suis sur scène.
Il y a un paradoxe dans cette idée des compositeurs où vous dites qu'ils avaient l'urgence d'écrire quand on commande une œuvre.
Oui, mais quand vous commandez une œuvre aussi, c'est pareil. C'est pas, ça vient pas du néant comme ça. Vous vous tournez vers un compositeur dont vous savez que le langage vous correspond. Et puis peut-être vous sentez. Et d'ailleurs, il m'est arrivé d'essuyer des refus parce qu'un compositeur, il dit, non, tu sais, en ce moment, c'est pas non d'écrire pour violoncelle ou violoncelle et orchestre. Voilà. Je vais vous dire très franchement, ça fait des années que je cuisine Jörg Widmann pour qu'il compose un concerto pour violoncelle. Il a composé une petite œuvre solo qui est dans le CD, dernier CD que j'ai fait. Mais pour l'instant, le concerto, j'ai pas réussi à lui tirer les vers du nez, parce qu'il faut que ce soit le bon moment pour lui aussi.
Transmission, elle se termine, si je puis dire, aussi avec ses propres enfants, ce rapport à la musique. Vos enfants qui sont aujourd'hui des grands-enfants, vous leur avez transmis ?
Alors, non, je leur ai transmis mon amour. Alors après, pour le reste, il se trouve qu'il y en a un, le troisième, qui a vraiment le feu pour la musique. Il fait du piano, mais même, c'est pas sûr que ça devienne sa profession, mais en tout cas il brûle vraiment. Les deux aînés moins, ils s'intéressent à la musique mais de manière plus marginale. Mais c'est vrai que évidemment vous avez raison que c'est quand même drôle. On a parlé de la transmission, mais bon, forcément, parce que là moi je parlais de ma vie de violoncelliste, j'étais pas là pour parler de ma vie privée, mais il est évident que mon rapport à mes enfants est quelque chose qui est fondamental et fondateur. J'ai besoin d'y retourner. Je veux pas faire la litanie habituelle du pauvre musicien qui est tout le temps en tournée et qui voit pas sa famille, mais c'est un fait que dans notre métier itinérant, on est beaucoup parti. Et il y a des moments vraiment difficiles dans ce rapport aux enfants et aux proches. Mais moi, je sais que c'est vital. Il faut régulièrement que j'y retourne. Donc, je peux vous donner un exemple. L'année dernière, j'avais une tournée qui durait près de 3 semaines, où j'étais une semaine en Allemagne, une semaine à Londres et une semaine aux États-Unis, Philadelphie et New York. Dès la première semaine à Berlin, je commençais à être en manque de mes enfants. Et du coup, je leur ai passé un coup de fil. Je leur ai dit, qui est-ce qui veut venir à Philadelphie et New York avec moi? Et il se trouve que mes deux garçons, ils avaient vraiment des activités trop rédhibitoires. Ma fille, elle a dit, moi ça va, c'est assez cool en ce moment à l'école, pas de problème. Hop, je l'ai sortie de l'école une semaine, elle est venue avec moi à Philadelphie. Et dès le moment où elle était là, présente avec moi, tout d'un coup, je revivais. Donc, maman, il y a parfois des moments où ça suffit plus, le coup de fil. On a besoin d'être avec eux et de vivre ensemble. Thank you.
Prélude de la suite numéro 1, BWV 1007 de Jean-Sébastien Bach par Jean-Guyenne Queyras. Et voilà, c'est la fin de notre série de grands entretiens avec Jean-Guyenne Queyras. Sachez qu'il est ce samedi, le 26, en concert à la Philharmonie de Paris, en compagnie d'Alexander Melnikov. Rendez-vous à 15h. Merci à Céline Tronouvel et Mathieu Benoît pour la préparation, Gilles Blanchard à la réalisation, Yves Lehors à la technique et Eric Boisset au mixage. Toutes les informations, podcast et réécoute, c'est sur francemusique.fr. Et la semaine prochaine, Stéphane Grant vous donne rendez-vous pour une série en compagnie de Marc Moyon. Bon week-end.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.